Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Ce soir, c'est une émission spéciale Défi Extrême qui vous attend. Nous serons avec Christophe Chartier qui a réalisé au mois de mai 24 marathons en 24 jours en Sarthe pour sensibiliser sur le handicap invisible. Oui, vous avez bien entendu, 24 marathons en 24 jours. Puis nous recevrons Salima Bouayad Aga, professeur à l'Université du Mans, qui projette ni plus ni moins que de traverser la Manche à la nage en septembre 2026 afin de récolter des fonds pour la lutte contre la maladie de Parkinson. Elle nous dira tout de cet autre défi fou. On commence tout de suite avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
Pour de nombreuses personnes, réaliser un marathon représente déjà l'objectif d'une vie. Un exploit ultime, venir au bout de ces 42 km d'efforts, de douleurs, de larmes parfois, est une vraie prouesse sportive. Beaucoup de coureurs vous prendraient pour un fou si à la fin de leur marathon, vous leur demandiez d'en refaire ne serait-ce qu'un seul le lendemain. Et pourtant, Christophe Chartier, pâtissier de métier de 49 ans, a réalisé 24 marathons en 24 jours, du 2 au 25 mai, soit 1008 km. Il est avec nous ce soir pour nous raconter ce défi extraordinaire. Bonjour.
Bonjour.
Alors Christophe Chartier, commençons par parler un petit peu de vous. Quand on entend parler de 24 marathons en 24 jours, on s'attend à découvrir que cet exploit a été réalisé par un coureur professionnel. Et pourtant, ça n'est pas votre cas.
Du tout, non, je ne suis pas du tout. Je suis coureur amateur.
Alors, coureur amateur, mais même si vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas non plus un coureur comme les autres, il faut le dire. Vous avez notamment déjà réalisé des courses parmi les plus dures au monde, non ?
Oui, comme l'UTMB, la Diagonale des Fous pour les plus connus, ou le Tour des Géants en Italie qui faisait 350 km.
Avec 30 000 mètres
Ah oui, j'ai oublié, 30 000 mètres de dénivelé, parce que c'était en montagne, oui.
Ce qui est loin d'être un détail, tous ceux qui ont fait du footing dans leur vie le savent. Alors, comment vous est venue cette idée de faire 24 marathons en 24 jours, surtout qu'avant ça, vous aviez réalisé 8 marathons, ce qui est déjà beaucoup pour de nombreuses personnes, mais c'est quand même qu'un tiers de ce que après vous avez projeté de faire.
Eh bien, je voulais faire un défi solidaire sartois. C'est d'où l'idée des 24 marathons. Je voulais un chiffre qui parle pour la Sarthe. Donc au début, il y avait le premier qui est venu, c'est 72, mais ça faisait un peu trop. Et donc tout de suite, j'ai bifurqué sur le 24. On arrive à la semaine des 24 heures, donc 24, ça parle à tous les Sartois. Et puis pourquoi le marathon ? Pourquoi la distance marathon ? Eh bien, c'est simple, c'est la seule épreuve qu'il n'y a plus dans le département de la Sarthe. On n'a plus de marathon en Sarthe. Et donc j'ai allié les deux, 24 marathons, et puis en 24 jours, et dans 24 communes différentes de la Sarthe.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de marathon. Il y a un projet là, de marathon du Mans, qui est d'ailleurs un peu décrié par les coureurs pour son trajet un peu difficile.
Mais je ne l'ai pas vu passer.
Mais voilà, ce n'est qu'un projet encore.
D'accord.
Bon, ce défi, ce n'était pas qu'un simple exploit sportif. Vous avez réalisé ces 24 marathons pour l'association CIM. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette association ? Quels sont ses objectifs ?
Eh bien, l'association CIM lutte pour la reconnaissance du handicap invisible. Donc, dans l'association CIM, vous avez des douloureux et une équipe pluridisciplinaire, en fait. Ces douloureux ont mis des choses en place avec toute l'équipe pluridisciplinaire, en fait, et ils le proposent à d'autres douloureux. Voilà.
Oui, parce que c'est des douleurs chroniques, c'est ça qu'on traite.
Oui, tout à fait, entre autres. Oui.
Et l'association estime, c'est un phénomène important, estime qu'il y a en Sarthe 50 000 personnes qui sont touchées. Ça peut être des maladies comme la sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer ou la fibromyalgie.
Tout à fait.
Et quel a été le résultat vis-à-vis de l'association ? En fait, comment vous avez pu aider l'association à travers vos 24 marathons ?
Donc moi, l'idée, c'était de mettre en lumière l'association, qu'elle soit connue dans tout le département. C'est pour ça que j'ai vraiment fait... j'ai choisi 24 communes un peu éclatées dans le département. Et je pense que ça a réussi, parce qu'on a eu déjà des bons retours. Et puis maintenant, c'est aux douloureux de contacter l'association pour mettre des choses en place.
Et ça a permis aussi, non, à travers des stands sur les points de départ ou d'arrivée, de récolter des fonds ?
Oui, tout à fait. Donc il y avait une boîte à dons sur tous les stands. D'ailleurs, c'est ma femme qui tenait à chaque fois le stand, entre autres. Et donc il y avait une boîte à dons, et puis on avait des t-shirts, des casquettes, des goodies à vendre, et tout revenait à l'association.
C'est pas la première fois que vous mettez le sport au service d'une bonne cause, parce qu'en 2019, par exemple, vous aviez réalisé un tour de la Sarthe pour l'association Vaincre Parkinson, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc, c'était en 2019, tout à fait. J'avais fait le tour de la Sarthe pour faire connaître justement l'association Vaincre Parkinson à l'époque. Et donc, ça avait bien marché. C'était un peu le même système, hein, en fait. Donc là, c'était juste le tour de la Sarthe. Enfin, juste.
C'est combien de kilomètres ?
C'était 410 kilomètres.
Ouais, donc, juste 400.
Oui. J'avais fait en 8 jours. Hein, et j'étais logé chez l'habitant, en fait. C'était un peu l'idée, que ça soit partagé et que ça soit solidaire en même temps.
Et comment a réagi votre entourage lorsque vous leur avez annoncé que vous alliez vous lancer dans un tel défi ?
Alors le défi, moi, il est dans ma tête depuis, ça faisait au moins un an et demi à peu près, hein, que je réfléchissais à un défi solidaire dans le département. Je m'étais déjà rapproché de l'association CIM déjà à l'époque, et je suis rentré dans l'association CIM officiellement depuis janvier. Et alors la réaction des gens autour de moi, ceux qui me connaissent vraiment bien, ils me disent bah ouais c'est cool. Et ceux qui me connaissent pas trop, ils me regardent de loin et ils se disent oh là, il est perché ce gars-là. C'était bien réfléchi quand même.
Et comment on se prépare à faire 24 marathons de suite ? Un marathon déjà pour beaucoup de gens, ça représente des semaines voire des mois de préparation. Donc pour en réaliser 24 de suite, comment on s'y prend ?
Alors, il faut avoir des bonnes personnes autour de soi déjà. Donc, j'avais deux entraîneurs. Donc, ma coach de mon club de la Patriote de Bonne Étape, donc Peggy. Et j'ai un entraîneur à côté, moi, qui m'entraîne pour les longues distances, qui s'appelle Damien. Et donc, je leur ai proposé le défi de me faire une préparation là-dessus. Je vous cache pas qu'ils ont fait une drôle de tête. ils m'ont sorti une bonne préparation. Donc, c'était 4 mois de préparation à 6 jours par semaine. Et avec en début de préparation avec de la natation, du vélo et puis énormément de course à pied.
Mais comment vous avez réussi à concilier entraînement intensif et vie professionnelle et personnelle, puisque je le rappelle, en plus vous êtes chef pâtissier, qui est quand même un métier qui demande du temps, on se lève tôt, il y a quand même de la fatigue déjà par rapport à juste votre métier.
Et donc j'ai une certaine discipline, enfin en fait je mets une certaine discipline. C'est vrai que je me lève tous les matins à 3h du matin. Je finis ma journée, alors je sais jamais trop à quelle heure je finis ma journée, donc on va dire à peu près aux alentours de midi. Je mange, comme monsieur tout le monde. Après je me repose, je fais 45 minutes de sieste, et après je pars m'entraîner avec des séances qui peuvent durer jusqu'à 4, 5, 6 heures de séance derrière, quoi. Et après rebelote le lendemain matin, je me relève à 3 heures. Donc c'est une certaine discipline. Après, faut savoir que quand je mets en place des défis comme ça, ou même des courses longue distance, avant de me lancer... avec mes enfants et ma femme, on se met à table et puis on en parle parce que je fais pas ça tout seul. Faut savoir que mes enfants acceptent, ma femme accepte. Hein. Ça peut être une vie un peu bizarre, mais c'est juste une petite période de ma vie où je mets entre parenthèses pour faire un défi. Et quand le défi est solidaire, y a pas, c'est mon temps il est pour eux en fait.
J'ai même l'impression qu'ils font plus qu'accepter, qu'ils vous accompagnent, parce que vous avez parlé de votre femme qui était présente à chaque fois. C'est une vraie aventure familiale après pour vous, la réalisation de...
Tout à fait. C'est une aventure tout court. Et ma femme me suit à 2000%. Mes enfants ont participé. J'ai réussi à faire courir mon fils. Il est footballeur, donc il court sur le terrain de foot, mais il court pas trop d'habitude. Juste pour une petite histoire, il a fait une fois une boucle donc de 7 km. Et à la dernière étape, il a fait un semi-marathon. Donc c'est top. À 17 ans, c'est juste top. Et ma fille, sur le mois de mai, elle a fait, je crois, 120 km. C'est la première fois qu'elle faisait autant de kilomètres au mois de mai. Donc c'est top aussi.
Bon, ce qui est assez amusant, c'est que vous, en fait, pour ce défi, vous avez dû vous entraîner à courir moins vite que d'habitude.
Oui, beaucoup moins vite, parce que j'ai une allure marathon aux alentours de 13 km/h. Et là, on m'a demandé, pour le défi, on m'a demandé de courir à 8,5 km/h. Alors, ça pourrait paraître super facile, mais en fait, alors c'est facile si vous faites sur une demi-heure, trois quarts d'heure ou une heure maximum. Par contre, quand vous faites un effort sur 5 heures, courir à 8,5, sachant que c'est même pas mon allure footing, en fait, c'est extrêmement compliqué.
Oui, parce que je crois que votre record personnel sur marathon, c'est 3h20.
C'est ça.
Et là, vous faisiez vos marathons à peu près en combien de temps ?
Le plus rapide, même si c'était pas l'important, entre 4h40, je crois, et le plus lent, si on peut parler comme ça, il était à 5h10.
Donc on voit un changement quand même assez
radical,
assez drastique. Alors vous n'étiez pas seul quand vous couriez, vous avez parlé de vos enfants, mais il y avait aussi pas mal de personnes qui se joignaient à vous à chaque course. Ça, j'imagine que ça a été important, parce que quand on fait 42 km chaque jour, ça peut devenir un peu lassant, non, d'être tout seul.
Alors j'ai jamais été tout seul. Juste donc faut savoir que en fait les marathons je les faisais en forme de boucle. J'ai tracé dans chaque commune une boucle de 7 km que je répétais 6 fois. Donc pour moi ça pouvait être un peu lassant, mais ça l'a pas été parce que j'étais accompagné tout le temps. Mais le but c'était en fait que n'importe quel jogger puisse m'accompagner sur au moins une boucle. Et ça a super bien marché parce que beaucoup de personnes m'ont accompagné sur une boucle de boucle, ont même dépassé leur kilométrage qu'ils font d'habitude. Chacun a eu son défi en fait. Moi le mien c'était de faire les 24 marathons, d'autres c'était de faire deux ou juste trois boucles, et ils ont dépassé leurs limites aussi, à leur façon en tout cas.
Oui, parce que ce défi des 24 marathons en 24 jours, il a suscité un engouement quand même assez impressionnant. Au-delà des gens qui vous accompagnaient, dans les villes dans lesquelles vous êtes passé, il y avait des petites festivités de préparer au départ, à l'arrivée. Au Mans, pour votre arrivée finale, il y avait quand même plus de 100 personnes qui vous attendaient place Saint-Pierre devant la mairie. Vous attendiez, vous, à un tel engouement avant ?
Au départ, non, mais j'ai vu assez rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, faut savoir que au niveau de l'association, ils ont une équipe de communication au top. Et dès le début, ils ont mis la gomme sur la communication. Et c'est vrai, dès le premier, je l'ai vu, l'engouement qu'il y a eu dès le premier marathon à Ballon-Saint-Marc. Et puis au dernier, ça a été l'apothéose parce que j'ai pas compté le nombre de personnes, mais en coureurs, je crois qu'on était pas loin de 100 coureurs. Et plus les gens qui m'attendaient place Saint-Pierre, c'était génial.
Bon, est-ce qu'il y a eu quand même des moments de doute, des moments où vous avez failli abandonner, ou même d'ailleurs des moments tout simplement où physiquement vous avez eu des petits creux et c'était très compliqué ?
Alors, en même temps que la préparation physique, j'ai fait une très bonne préparation mentale. Abandonner, ça m'a même pas, ça s'est pas venu à l'idée du tout, à aucun moment. Même le mot, j'ai jamais prononcé d'ailleurs. Des problèmes physiques, à part 5 petites ampoules que j'ai eues la première semaine. Et puis une petite inflammation à mon tibia gauche du fait d'un petit souci de posture et qui a été assez réglé assez rapidement. Mon corps a répondu présent. Et puis la tête, de toute façon, elle était présente depuis le 1er janvier quand j'ai commencé à m'entraîner. Donc moi, j'ai commencé le 1er janvier et l'arrivée, c'était le dimanche 25 mai.
Vous êtes en train de nous dire qu'après 24 marathons en 24 jours, il n'y avait pas une courbature ?
J'ai jamais eu de courbature. J'ai eu des petites douleurs, comme je vous dis, une petite inflammation au tibia gauche, et c'est tout.
Bon, c'est impressionnant. Moi, Christophe Chartier, dernière question. Est-ce que maintenant, même si là, vous, évidemment, vous venez de terminer ce défi, est-ce que vous avez un autre défi, une autre aventure en vue ?
Alors, un défi solidaire pour l'instant, là, comme ça, non, parce que je ne veux pas non plus les multiplier. Je veux pas les multiplier. J'ai un petit défi, c'était pas forcément prévu. Je crois que c'est le 21 juin, le samedi 21 juin, il y a une course à Moncey-en-Belin. C'est les 12 heures de Moncey-en-Belin qui se font normalement par équipe, mais on peut aussi faire en solo. Et je crois qu'il y a 2-3 jours, je me suis inscrit sur les 12 heures de Moncey-en-Belin en solo. Pour le fun un petit peu quoi.
Ouais, pour le 12 heures de course pour le fun.
Voilà.
Merci beaucoup Christophe Chartier d'être venu nous raconter votre défi fou, 24 marathons en 24 jours à travers la Sarthe.
Merci à vous.
Radio Alpa, l'alternative.
Vous êtes toujours dans C'est d'actu et on revient après une courte pause musicale. Je vous laisse avec Surfing USA des Beach Boys.
Blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at Del,
inside outside USA.
Ventura County line,
inside outside USA.
Santa Cruz and Trinidad,
inside outside USA.
Australia and Caribbean,
inside outside USA.
All over Manhattan,
inside outside USA.
And down the Bellini Way,
inside outside.
Everybody's gone
surfing
USA. We'll all be planning.
Inside, outside,
and Wyoming,
inside, outside,
everybody's gone surfing.
Radio Alpa, l'alternative.
Ce soir, un défi extrême en chasse un autre. Traverser la Manche à la nage. Voilà le défi fou que s'est lancé Salima Bouayad Aga, professeure d'économie de 65 ans à l'Université du Mans. En septembre 2026, elle s'élancera pour rejoindre l'Angleterre ou les côtes normandes, d'ailleurs je lui demanderai, à la force de ses bras, et elle est avec nous ce soir pour nous parler de cette future aventure. Salima Bouayad Aga, bonjour.
Bonsoir.
Alors avant de parler de ce défi, de la traversée en elle-même, parlons un petit peu de votre vie, de votre parcours et notamment de votre rapport à la natation. Quand est-ce que vous avez commencé la natation ?
En vrai, à 4 ans avec mon père, mais la natation comme sport en club, c'était simplement vers 11 ans et demi.
Alors, vous avez, il me semble, vous êtes d'origine algérienne, vous avez grandi en Algérie et vous avez notamment fait partie de l'équipe nationale algérienne de natation quand vous étiez jeune.
Oui.
Mais vous l'avez ensuite quittée. Pourquoi ça ne vous passionnait plus ?
Alors, j'ai quitté l'équipe nationale en 78 après les Jeux africains parce que j'étais à l'université et que je rentrais à l'université, que mes entraînements et n'était pas compatible avec mes études et que je priorisais quand même les études. Et puis après, j'ai quitté l'Algérie pour d'autres raisons, pour des raisons plus politiques liées au terrorisme et aux années noires.
Pardon. Et en France, alors, vous avez repris la natation à l'âge de 35 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre ? Les bassins vous manquaient ?
Alors non, c'était un concours de circonstances. Mes filles faisaient de la natation, il leur manquait une nageuse pour les interclubs, et l'entraîneur des filles qui savait que j'avais fait de la natation a dit tu les remplaceras. Et j'ai dit oui, mais je m'entraîne. Et quand je me suis entraînée, en fait, il a vu que mes temps étaient au niveau des records de France. Donc il m'a dit ouais, tu fais les interclubs, puis après tu continues.
Oui, parce que dans cette reprise de la compétition, vous avez connu, on peut le dire, un grand succès. Vous avez été championne d'Europe en crawl longue distance, plusieurs fois finaliste au championnat du monde. Et pourtant, je crois que ce n'est pas tant le fait, vous, de gagner en fait, des trophées qui vous motive. C'est surtout l'envie de se battre soi-même.
Oui, c'est ça. Le dépassement de soi, ça peut poser des problèmes. Parce que quand on sort, qu'on a gagné un titre de championne d'Europe et qu'on n'est pas contente parce qu'on aurait aimé faire mieux, ça manque un peu d'humilité. Mais j'ai appris avec l'âge à me contenter de ces réussites.
C'est aussi le tempérament des grands champions et des grands sportifs. Et on l'a un petit peu mentionné, mais quelle était votre discipline, votre spécialité en natation ?
Ma spécialité, c'était le long, le 800. Le 800, mais en fait, j'étais meilleure en sprint. C'est un hasard. Mais je préférais beaucoup les entraînements de long. Passer beaucoup de temps à la piscine, c'est ce qui m'a toujours fait plaisir.
Bon, alors même si vous êtes une nageuse de très bon niveau, qui plus est, qui aime beaucoup travailler sur des longues distances, quand bien même traverser la Manche, ça reste une idée folle. Donc tout simplement, comment vous est venue cette idée, Salima Bouayad Aga ?
Alors, rapidement, j'avais besoin que tout ce que j'avais traversé dans ma vie et toutes les heures passées à nager trouvent un sens. Donc j'ai traversé beaucoup d'épreuves, je ne mentionnerai pas là. J'ai fait preuve de beaucoup de résilience et de beaucoup de courage. Je n'ai jamais arrêté de travailler, je ne suis jamais restée au lit sans rien faire. Et à un moment donné, je ne sais pas, je devais avoir 64 ans, je me suis dit, mais tu as passé beaucoup de temps à nager, tu as eu beaucoup de courage, beaucoup de résilience et beaucoup de capacité d'adaptation. Il faut que ça ait un sens. Et du coup, j'ai cherché un défi. Et puis voilà, la Manche est venue naturellement parce que c'est l'Everest de la natation. Donc c'est le summum du défi aujourd'hui pour les nageurs.
Et votre traversée de la Manche, ce ne sera pas uniquement un exploit sportif, parce que comme les marathons de Christophe Chartier, ce sera aussi un acte de générosité, puisque vous allez nager pour France Parkinson. Alors comment ça va se passer concrètement ? Comment vous allez en fait aider l'association à travers votre projet ?
Tout à fait, en fait, c'est un défi personnel, certes, mais pas un défi sportif en soi. C'est vraiment rendre visible la maladie de Parkinson et pouvoir participer à la recherche d'une part et à l'accompagnement des aidants et des malades. Et donc, je collecte des fonds via une association qui s'appelle France Parkinson. Et il y a un compte qui est dédié. L'argent ne passe même pas par moi, c'est-à-dire que c'est versé directement sur un compte qui s'appelle un compte Alvarum et c'est défiscalisé à 66%.
Est-ce que vous pouvez indiquer où est-ce qu'on peut...
C'est www.alvarum.com/Salima Bouayad Aga en un seul mot. Et donc l'argent va directement à France Parkinson sur des programmes pour lesquels je ferai un peu plus de publicité très prochainement.
D'accord. Et sur le volet sportif, c'est un effort évidemment colossal. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà la distance qu'il y a à parcourir et le temps que vous allez rester dans l'eau ?
Alors, la distance en ligne droite, elle est 34 km environ. Le temps passé dans l'eau, on estime avec mon coach que ce sera entre 16h et 17h, du fait de l'eau froide, des courants, des marées. Voilà.
Parce que vous avez donné la distance en ligne droite, mais vous n'allez pas faire une ligne droite, c'est
non,
ça ?
Non, si on est bon, on fait un S, et si on est moins bon, plus on est lent et plus la trajectoire va être sinusoïdale, en fait. Voilà, parce que les courants s'inversent à un moment donné et qu'il faut lutter contre les courants.
Et est-ce que vous savez d'où est-ce que vous allez partir et où est-ce que vous allez arriver ?
Alors oui, je sais d'où je pars, c'est en Angleterre. La traversée est interdite depuis la France. Où on arrive, c'est là où on arrive. C'est-à-dire qu'on peut arriver à Ouessant, on peut arriver... Enfin, on arrive sur une côte et on touche la terre et tout de suite après, on repart sur le bateau. On n'a pas le droit de rester en France. C'est vraiment des règles très précises.
Pour se préparer, alors je rappelle que la traversée s'effectuera en septembre 2026. À quoi ressemble votre quotidien en ce moment ? J'imagine que c'est beaucoup d'entraînement.
Oui, c'est beaucoup d'entraînement. C'est environ 25 km de natation par semaine, 4 fois par semaine. Et ça représente des entraînements pour lesquels je peux rester entre 2h30 et 4h à la piscine. Et puis bien évidemment, il faut aussi nager en mer pour s'habituer aux vagues, à l'eau froide, aux méduses. Voilà, et donc là, ça, le maximum que j'ai fait jusqu'à présent, ça doit être 3h15.
Alors, on va revenir justement après sur les différentes difficultés, mais je vais dire à nos auditeurs qui ne peuvent pas le voir, pour vous rendre compte à quel point les chiffres que vient de donner Salima Bouayadaga sont impressionnants, Christophe Chartier a fait les grands yeux, alors qu'on peut dire que c'était déjà un sportif de très haut niveau. Bon, est-ce que vous vous êtes mis en contact alors avec des spécialistes, des nageurs de l'extrême pour vous entraîner ?
Alors oui, la personne qui m'entraîne, c'est Philippe Faure, qui est un nageur de l'extrême. Il a fait la traversée de la Manche dans des conditions assez difficiles et une température très basse. Et il a fait d'autres défis extrêmes à une certaine époque. Et c'est lui qui m'envoie toutes les semaines les 4 entraînements pour lesquels je lui fais un retour via Messenger. Souvent, il m'engueule parce que je n'ai pas fait comme il fallait. Mais c'est très important d'avoir un coach pour avoir des séances. Et puis, bien évidemment, je fais de la cryothérapie. Je suis accompagnée par un coach mental, par un diététicien, parce que l'alimentation est fondamentale pour un défi en eau froide d'une aussi longue durée. Voilà, en gros, tous les accompagnants.
Quand un tel défi nous attend, on doit y penser tous les jours, non ?
Oui, j'y pense tous les jours, j'y pense quand je nage, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai mal au bras, je me dis « mais Salima, quand tu seras dans la Manche et que tu auras mal au bras, tu ne vas pas dire « ah ben je sors, j'en ai marre ». Donc forcément, la visualisation, elle est permanente à chaque difficulté, j'y pense, j'en rêve la nuit, mon travail est organisé en fonction de ça, ma vie familiale est organisée en fonction de ça, mes vacances sont organisées en fonction de ça. Donc oui, comme dit mon coach, tu penses manche, tu dors manche, tu manges manche, tu rêves manche, voilà.
Et alors c'est quoi qui prédomine ? Est-ce que vous êtes stressée, impatiente, confiante ?
Tout ça à la fois. Il y a des moments, ça serait... Je ne sais pas pour Christophe, mais moi, il m'arrive de douter, bien évidemment. Ça ne m'empêche pas d'y croire, mais il y a des moments, je ne suis jamais découragée, mais des fois, je doute. Je me dis, peut-être que tu as vu trop grand. Et puis après, je reprends du poil de la bête et je me dis, bah, de toute façon, le chemin, il est important, la préparation, elle est importante. Tu fais tout pour que ça se fasse. Et puis voilà. Je ne suis plus toute jeune, donc il peut y avoir des accidents de parcours. J'aurai 67 ans l'an prochain. Si ça passe, eh ben, je serai la première Française de cet âge à traverser la Manche. Donc voilà, le défi, il est aussi là.
Bon, nager au sein du bassin d'une piscine et traverser une mer, c'est très différent, c'est peu de le dire. Alors on va parler un petit peu des grandes difficultés qui vous attendent. Vous en avez mentionné une. Il paraît que vous êtes un petit peu frileuse, on va dire. Alors passer 17 heures peut-être dans une eau qui sera peut-être à une douzaine de degrés, qui sera en tout cas, c'est sûr, très froide, ça va être compliqué, non ?
Oui, c'est compliqué, mais ça fait partie du challenge. Je me dis toujours, si y a des gens qui ont réussi, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Je ne suis pas différente des autres. Donc, voilà, le tout, ça va être un travail mental. C'est vrai que quand on rentre dans une eau à 11 degrés, ben, on a tout qui refuse. Et tout le travail, c'est justement d'accepter et de se concentrer sur ce que le corps sait faire, nager, trouver du plaisir à nager et évacuer toute l'appréhension qu'on peut avoir vis-à-vis du froid. C'est un vrai travail sur soi.
Et évidemment, lors de cette traversée, déjà pour des questions évidentes de sécurité, vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné d'un bateau avec plusieurs membres d'équipage. Alors, qui sera à bord pour vous aider? Quelles vont être les fonctions des différentes personnes?
Alors, il y a le pilote du bateau qui fait partie d'une association. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de faire cet accompagnement. Il y a un observateur qui regarde la régularité de la traversée. Et puis après, on a droit à 3 personnes qui sont là pour vous accompagner. Elles ne sont pas obligatoires, mais c'est quand même très important pour être nourri, parce qu'effectivement, la nutrition pendant ces 17 heures, elle est importante. On n'a pas le droit de toucher le bateau. Donc effectivement, on vous envoie des gourdes, soit de gel, soit des gourdes de thé chaud ou de boissons isotoniques. Et puis après, les autres personnes, en général, c'est quelqu'un qui peut aller à l'eau si vous avez un coup de mou.
Ou, pour nager à côté de vous, un peu comme, vous, comme sur les marathons.
Ou un médecin. Mes filles, j'ai 2 filles qui sont un peu inquiètes et qui aimeraient bien qu'il y ait un médecin à bord. Voilà, donc, et puis éventuellement quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour trouver les mots, pour vous encourager. Voilà.
Et oui, justement, j'allais vous en parler de vos proches, vos collègues, même vos étudiants, puisque je le rappelle, vous êtes professeur d'économie. Ils doivent beaucoup vous parler, non, de cette future aventure. Et qu'est-ce qui ressort généralement de ces discussions? Est-ce que les gens sont... Il y a beaucoup d'encouragement, sûrement, mais est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'inquiétude chez votre cercle proche?
Alors, le cercle proche, forcément, il est un peu inquiet, mais ma famille me soutient, m'encourage et y croit dur comme fer. Mes étudiants ne le savaient pas jusqu'à présent parce que j'ai attendu la fin de cette année universitaire pour communiquer sur le sujet, parce que je ne voulais pas mélanger les genres. Ça va certainement être un sujet de discussion à la rentrée. Et puis, mes collègues le savent et ils me posent des questions à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment. Ils sont épatés. Voilà, un peu comme pour Christophe, il me considère comme un peu perché, mais en même temps, ça correspond assez à mon tempérament un peu marginal, on va dire, donc ça ne les étonne pas plus que ça.
Merci Salima Bouayadaga, professeure d'économie à l'Université du Mans, qui s'apprête à traverser la Manche, d'avoir répondu à nos questions et surtout, bon courage.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de ce Sport en Sarthe spécial défi extrême. Merci à nos invités et merci à vous, bien sûr, d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur radioalpa.com dans les infos de la rédaction. Sport en Sarthe revient le vendredi 20 juin avec le retour du génial Charlie Pless au micro sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Bonne soirée à tous.